RFI, 4h30 à Paris et à Kinshasa, 3h30 en temps universel.
Nemo en piste.
Toujours pas de dialogue direct avec le M23 soutenu par le Rwanda. C'est ce qu'a réaffirmé hier le président congolais Félix Tshisekedi. Lui qui assure qu'une refonte totale de l'armée est en cours après trop de trahisons, a-t-il reconnu. Le chef de l'État s'entretenait avec les élus de sa coalition. Nous sommes à Kinshasa, puis à Kigali, ensuite où démarre ce dimanche le Tour du Rwanda. Vous l'entendrez, eux aussi, les coureurs du peloton se sentent concernés par la situation. La plupart sont tout de même venus montrer leur confiance aux organisateurs et prendre leur marque à quelques mois des premiers mondiaux sur le continent africain. L'agriculture soudanaise en vitrine au Salon international de Paris, tamarin, épices, baobab ou encore gomme arabique sur le stand du pays. Et puis deux petits rounds et puis s'en va le Congolais Martin Bakole. N'aura pas fait le poids hier en Arabie Saoudite face au Néo-Zélandais Joseph Parker. Le plus grand combat de la carrière de Bakole qui n'a pas hésité une seule seconde, lui, l'appeler de dernière minute. En République démocratique du Congo, face à la situation sécuritaire dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi promet une réorganisation bien plus professionnelle de son armée. Objectif, mieux lutter contre les avancées du M23 soutenues par le Rwanda dans les Kivu. Lui qui, lors d'une rencontre avec députés, sénateurs et caciques de sa coalition, a réitéré son refus d'entrer en contact direct avec le M23. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
Le président affirme avoir dit aux évêques catholiques et protestants qui tentent d'assurer une médiation dans la crise qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23, qu'il a encore qualifié de pantin. « Ce serait nous humilier », a-t-il déclaré, même s'il a reconnu que les forces congolaises sur qui il compte pour inverser la dynamique sur terrain sont trahies de l'intérieur, dit-il. Et d'ajouter, « Tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent, soit ils n'ont pas fait parvenir ce qui devait arriver à nos forces. » Tshisekedi a révélé qu'il est même arrivé aux troupes engagées au front de se retrouver, je cite, « pendant une semaine sans commandement et sans ravitaillement ». Mais c'est fini, a dit Tshisekedi, promettant une refonte totale de l'armée qui devrait être professionnelle et bien prise en charge. Côté politique, le président envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais bien avant, il compte opérer des changements dans la direction de l'Union sacrée. Sa majorité qu'il a défie avec un manque de réactivité politique face aux défis sécuritaires. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Et pendant ce temps-là, une accalmie précaire semble revenue sur les différents fronts ouverts dans l'Est, au Nord notamment, dans le territoire de Lubero, comme au Sud Kivu. Des nouvelles de la ville d'Uvira également, où des tirs et des pillages ont été recensés cette semaine. Des troubles attribués par le maire adjoint de la ville restés sur place à des militaires FARDC qui ont désobéi. Selon cette même source, une vingtaine de personnes auraient été tuées, une centaine d'autres blessées. Et selon des habitants, des personnalités et lieux religieux ont également été pris pour cible. Témoignage justement d'un habitant d'Uvira, rendez-vous dans le prochain journal de 5h, heure de Paris, avec Martin Guèze. De l'autre côté de la frontière au Rwanda, cette fois, démarre aujourd'hui dimanche le Tour cycliste, étape devenue importante dans le calendrier des grandes équipes internationales, surtout cette année où certaines formations viennent prendre leur marque à quelques mois désormais des mondiaux de cyclisme qui auront lieu à Kigali en septembre, une première pour le continent africain. Répétition générale donc sur fond de conflit dans le pays voisin et alors que la pression autour des partenariats sportifs du Rwanda s'intensifie. Thomas de Saint-Léger est sur place et a pris le pouls auprès des coureurs du peloton.
Avec leurs maillots blancs et leurs machines rutilantes, les coureurs de l'équipe UAE détonnent dans le trafic de Kigali. C'est le dernier entraînement. Dans quelques heures, le jeune Français Hugo Fabriès sera au départ d'une course qu'il aurait pu ne jamais disputer.
Il y a un moment, je me suis demandé même si on allait venir et si c'était bien de venir. C'est quand même un peu l'inconnu et c'est pas des choses banales qui se passent.
Mercredi, les coureurs seront à Gisenyi, la cité jumelle de Goma, récemment tombée aux mains du M23. En tout, ils passeront 3 jours dans la zone frontalière avec la RDC. Trop dangereux pour les Belges de Soudal Quickstep, les seuls à renoncer. Les autres seront là, rassurés par leurs échanges avec l'organisation. Benoît Genozo, directeur sportif de Total Energy.
On a pris le parti de faire confiance aux instances. Donc là, on a 5 coureurs qui sont totalement concernés, qui ont envie d'être ici. Et il n'y a pas de crainte particulière.
Reste la dimension éthique, le Rwanda soutient le groupe M23 à l'offensive en RDC. Une situation compliquée à gérer pour certains coureurs européens, notamment désireux de participer à ce rendez-vous important du cyclisme africain. Le monégasque Antoine Berlin, deuxième participation à la course.
On est sensible aux différents points de vue de la communauté internationale. Néanmoins, nous aujourd'hui, on fait vraiment la distinction entre l'organisateur du Tour du Rwanda, le peuple rwandais et les organisations gouvernementales. Et on vient surtout soutenir l'écosystème du vélo au Rwanda.
Et le Rwanda joue gros. Si l'Union cycliste internationale a récemment démenti des rumeurs de déplacement des prochains mondiaux, elle dit aussi suivre de près la situation. Son président, David Lapartien, sera d'ailleurs présent ce dimanche au départ. Thomas de Saint-Léger, Kigali, RFI.
Un sport encore dans la région et un derby à huis clos ce dimanche à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et Lupopo, alors que le championnat de football de RDC a repris ses droits il y a quelques jours. Une mesure mise en place pour prévenir d'éventuels débordements dans ce contexte particulièrement tendu, dit la ville, qui assure avoir déboursé près de 7 millions de francs pour assurer la sécurité de la rencontre, mais aussi pour combler la perte des recettes. En Afrique du Sud, des désaccords au sein du gouvernement de coalition et donc toujours pas de budget pour le pays. Cette semaine, le ministre des Finances devait en présenter un devant le Parlement au Cap, mais son discours a été annulé en dernière minute. L'heure est désormais à un retour à la table des négociations. RFI Johannesburg, Claire Bargelès.
Le principal point de désaccord, c'est la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Cet impôt payé par tous sur les biens consommés et les services utilisés. Elle aurait dû, selon les plans de l'ANC, passer de 15 à 17%. Une mesure impopulaire mais nécessaire pour le président Cyril Ramaphosa afin de financer le budget sans toucher à la dette.
Aucun ministre des Finances n'en vient à augmenter volontairement les impôts, sauf s'il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre alternative. Nos recettes ne sont pas suffisantes pour financer toutes nos priorités et nos ambitions.
L'ANC ne gouverne plus seul depuis l'année dernière, puisque le parti historique de Nelson Mandela a perdu la majorité absolue au Parlement. Et au sein de la coalition, c'est entre autres l'Alliance démocratique qui s'est opposée à la mesure, la deuxième formation politique du pays de tendance droite libérale. D'après son dirigeant et ministre de l'Agriculture, John Steinhausen, il faudrait couper les dépenses de l'État plutôt que d'augmenter les recettes.
Nous devons réduire le nombre de fonctionnaires ainsi que la taille du gouvernement. Ce sont des réformes courageuses que d'autres pays ont mis en place. Si l'on prend des pays qui nous sont similaires comme l'Argentine, ils ne font pas de changement à la marge, ils prennent des décisions difficiles.
Une autre solution serait la mise en place d'une taxe sur les plus grandes fortunes, mais les partis de la coalition craignent une fuite des capitaux. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Radio France Internationale, 3h38 à Dakar, au Sénégal, où une série de mesures annoncées en faveur du secteur agricole a été faite hier. À Kaolack, dans le centre-ouest du pays, où avaient lieu les Journée nationale de l'élevage, 9e édition. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait le déplacement, l'occasion pour les acteurs du secteur d'énumérer leurs difficultés, notamment les manques de financement, les vols de bétail ou encore l'absence du décret d'application d'une loi adoptée il y a plus de 20 ans maintenant, en 2004, pour un développement durable et censé prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Je vous propose d'écouter Bassirou Diomaye Faye.
Une des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage est la sécurisation des facteurs de production dans l'alimentation du cheptel sera la mise en place de coopératives agricoles communautaires contribuant ainsi à fixer les jeunes dans leur terroir et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Concernant l'amélioration génétique, les opérations d'importation d'animaux seront poursuivies en y intégrant les cultures fourragères et tout l'accompagnement nécessaire en termes de conduite d'élevage et de santé animale. Quant au vol de bétail, il constitue un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi j'ai instruit Monsieur le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de bétail aux fins de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ces désastres.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au micro de Moussa Barry de la rédaction en full day et mandinkan de RFI à Dakar. Le Sénégal parmi la dizaine de pays africains représentés cette année au Salon international de l'agriculture de Paris. L'événement a ouvert ses portes hier pour une 61e édition. Cette année, c'est une première, un pays étranger est mis à l'honneur. Il s'agit du Maroc, mais je vous le disais, d'autres pays du continent sont venus présenter leur savoir-faire. Parmi eux, le Soudan, absent l'année dernière, notamment en raison de la guerre qui fait rage depuis bientôt 2 ans, est bel et bien présent dans les allées de la plus grande ferme de France. Reportage sur place de Kpenaï Traoré.
Épices, tamarins, baobabs, gomme arabique, ce sont entre autres ces produits locaux que le Soudan propose. Si la plupart du temps, il fait l'actualité à cause de la guerre, ici, les visiteurs veulent voir un autre visage de ce pays du nord-est de l'Afrique en dégustant ses produits.
On a goûté le tamarin, que ce soit entier ou là, on le goûte en jus.
Malheureusement, je connais le Soudan plutôt par les informations internationales que par ce qu'il peut produire. Ouais. Pour le coup, c'est très très bon le tamarin. Ici, on a quand même des bons produits.
Les représentants soudanais avaient déjà essayé l'année dernière d'être présents au Salon de l'agriculture, mais ils avaient finalement renoncé en raison de la situation politique. Ratila Alfadel est l'un des gérants du stand.
Cette année, on a essayé malgré toutes les difficultés. Et c'est vraiment important qu'on soit ici aujourd'hui parmi tous les pays qui participent à ces grands événements. En fait.
Et malgré tout ce qui se passe dans votre pays au Soudan, c'était très important pour vous d'être là?
Oui, oui, c'est absolument important. C'est déjà pour montrer c'est quoi le Soudan. Mais c'est de dire que oui, nous on existe malgré tout. Et il ne faut pas abandonner et pour ça on est là aussi. En fait.
Le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Algérie et le Cameroun sont également représentés à cette 61e édition du Salon international de l'agriculture.
Une 61e édition où 600 000 personnes sont attendues d'ici le 2 mars prochain. Et puis de la boxe pour refermer ce journal. Hier soir à Riyad en Arabie Saoudite, un rapide passage sur le ring pour Martin Bakole, le poids lourd congolais, balayé par le néo-zélandais Joseph Parker. Bakole, pour qui ce combat n'était pas à l'agenda, appelé de dernière minute pour remplacer le britannique Daniel Dubois. Il n'avait donc pas de préparation spécifique pour l'événement et Sofiane Amazian, ça s'est vérifié hier soir.
La montagne était trop haute pour Martin Bakole. Largement favori avant le combat, Joseph Parker n'a pas perdu de temps du côté de Riyad pour faire respecter la logique. Victoire par KO dès la deuxième reprise pour le néo-zélandais de 33 ans et ancien champion du monde. Pas grand chose à dire, Bakole a plutôt bien débuté le combat avant de se faire surprendre par la droite de son adversaire durant la deuxième reprise. À la fin du combat, les deux athlètes se sont enlacés car l'histoire de cet affrontement est incroyable. Daniel Dubois, champion IBF et premier adversaire de Parker est forfait, Bakole saute sur l'occasion et se rend à Riyad en 48 heures à peine. Le natif de Kananga n'a donc pas eu d'entraînement spécifique pour disputer le plus grand combat de sa carrière et cela s'est senti sans remettre en cause le talent du boxeur de 31 ans qui restait sur 10 victoires de suite. Peut-on parler de coup d'arrêt? Pas vraiment. Martin Bakole est toujours bien classé et pourrait avoir prochainement une chance pour la ceinture de Daniel Dubois. Sa série d'invincibilité prend fin mais son ascension ne fait que commencer.
Sofiane Amazian, 4h43 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre comme tous les dimanches les deux têtes d'affiche de Denis Zépoté, toutes deux sont marocaines cette semaine. Le livre international sélectionné, le dernier ouvrage du journaliste Marc Semo intitulé La géopolitique, comprendre le monde de demain. Frédéric Lebel interroge l'auteur tout à l'heure. Et puis notre reportage culture sur l'utilisation de l'or depuis des siècles sur les tenues du monde méditerranéen au monde asiatique. Au fil de l'or, c'est la nouvelle exposition du moment au musée du Quai Branly. On vous y emmène dans un quart d'heure. Tout de suite, le reportage Afrique. Et ce clap de fin hier sur le Dakar Music Expo, 6e édition depuis jeudi dans la capitale sénégalaise. Des rencontres, des conférences, mais aussi des concerts. Et cette année, le thème était le jazz africain. Un genre qui reste niche, mais qui pourrait très bien davantage s'exporter avec un peu de travail et surtout une bonne stratégie. Reportage Juliette Dubois.
On pense qu'il n'y a pas de jazz en Afrique, c'est ce qu'affirme volontairement provocateur Maouto Dick du festival Togo Jazz. Le genre souffre d'une mauvaise presse et Kossi Maoun, batteur togolais, le ressent depuis qu'il s'est lancé en solo en 2019.
C'est très difficile de gagner sa vie en tant que musicien de jazz en Afrique. Ici en Afrique, on aime danser, on aime se défouler, écouter de la variété. Le jazz, c'est peu de personnes qui écoutent le jazz.
Pourtant, de nombreux rendez-vous existent sur le continent, comme à Saint-Louis ou à Ouagadougou. preuve d'une grande richesse du jazz africain, mais il manque encore d'une promotion suffisante. Doudou Sarr est l'un des créateurs du Dakar Music Expo.
Il n'y a pas assez de représentation, il n'y a pas assez de marketing autour de ça, il n'y a pas assez de ressources financières qui sont mises dans la promotion et l'exportation des musiques africaines.
Pour Doudou Sarr, l'un des arguments de vente du jazz africain est de réclamer la maternité de ce genre, créé par les Afro-Américains descendants d'esclaves aux États-Unis. Il faut aussi mettre en avant sa singularité, inspirée des nombreuses traditions propres à chaque pays, Mahouto Dick de Togo Jazz.
Lionel Loueke, qui est un guitariste très émérite, un béninois, qui accompagne Herbie Hancock, voilà, il fait du jazz. Mais par contre, il s'inspire de sa tradition béninoise pour composer, même quand on prend Angélique Kidjo, ben, certains de ses chants viennent des couvents vaudous.
Les festivals étrangers, comme Marseille Jazz des 5 continents, veulent faire une place à ce jazz africain. Pour son directeur Hugues Kieffer, le Dakar Music Expo est un lieu idéal de rencontre. Il veut montrer aux jeunes talents qu'il existe une grande scène jazz dans le monde.
Il faut qu'ils aient la conscience, je pense, de leur identité à travers la scène et justement de ne pas singer ou de ne pas rentrer dans des modèles qu'on leur donnerait sans atteindre justement les millions. Mais on peut rencontrer une audience qui est intéressée et à travers le monde, il existe aussi une autre scène qui est aussi très intéressante et qui permet d'exprimer différemment peut-être ce qu'on est.
Doudou Sarr, également promoteur musical, se bat pour placer ses talents jazz. Il a conclu un partenariat avec le grand festival allemand Jazz Ahead et leur propose chaque année plusieurs artistes. À Marseille, le bassiste Alion Ouad sera sur scène cette année. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Khale bundaou titali jaleko, khale bundaou dedafa am'a, khale bundaou titali jaleko yo.
Un reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce dimanche 23 février 2025. Israël reporte s'inédié la libération des 602 prisonniers palestiniens jusqu'à ce que la libération des prochains otages israéliens soit assurée sans cérémonie humiliante. Hier, 6 otages ont été libérés, dont 5 ont été exhibés au milieu d'hommes cagoulés et en armes. Ces mises en scène ont été dénoncées à plusieurs reprises par Israël, l'ONU et la Croix-Rouge. Le Hamas, lui, accuse Israël de violation flagrante de l'accord de trêve. Jour de vote en Allemagne, élection législative anticipée provoquée par la rupture de la coalition SPD-Libéraux-Verts en novembre. Ouverture des bureaux de vote à 8h, heure locale, édition spéciale ce soir et demain pour analyser les premiers résultats. Édition spéciale demain matin aussi, RFI en direct de Kiev pour les 3 années de l'invasion russe de l'Ukraine. À cette occasion, le Royaume-Uni annonce qu'il va dévoiler ce lundi un important train de sanctions contre la Russie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer déclare qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Kiev dans une tribune publiée par l'hebdomadaire britannique The Sun. Des dizaines de milliers de personnes attendues au sud de Beyrouth, au Liban, pour prendre part aujourd'hui aux funérailles d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah tué fin septembre. Et puis l'état de santé du pape François, 88 ans, reste critique et le pronostic est actuellement réservé, indique le Vatican qui évoque une crise asthmatique respiratoire. On vous en parlait, le Maroc à l'honneur depuis hier au Salon de l'Agriculture à Paris. À l'honneur également ce dimanche pour les têtes d'affiche de Denise Epoté. Elle est au micro de Simon Bourtembourg.
Sur la première marche de votre podium cette semaine, un médecin maroco-américain, après une spécialisation en neurosciences obtenue à Boston, Youssef El Azouzi intègre l'école de médecine d'Assibadem en Turquie. En 2020, il a donc mis au point Aorto Médical, une innovation destinée aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque, une maladie de Nice qui touche 64 millions de personnes dans le monde.
C'est pas peur de s'installer dans la routine en soignant un patient après l'autre que Youssef El Azouzi s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec comme objectif de changer la façon de pratiquer la médecine. En 2020, il lance sa start-up Aorto Médical et conçoit un dispositif pour aider les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. L'appareil modifie la direction du flux sanguin afin qu'il soit prioritaire pour les zones les plus importantes du corps d'un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. En somme, une optimisation du flux sanguin vers les organes critiques, le foie et les reins qui affectent la qualité de vie du patient. Youssef El Azouzi se félicite d'avoir repensé le dispositif d'une endoprothèse qui, en règle générale, sert dans le traitement de l'anévrisme de l'aorte, grâce à Aorto Médical, le coût du traitement pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale chronique est divisé par 4. Par ailleurs, l'innovation permet d'éviter la chirurgie thoracique ouverte et invasive et l'usage d'une pompe cardiaque artificielle. Après des tests réalisés à grande échelle sur des animaux en France et aux États-Unis, les premiers essais cliniques sur l'homme seront réalisés cette année au Maroc. Pour cette innovation, Youssef El Azouzi a remporté le prix du meilleur inventeur de la région MENA, décerné par la Fondation du Qatar.
Et votre seconde tête d'affiche, Denise, est également originaire du Maroc, ingénieur en management industriel et diplômé de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mohamed Amin Edji a mis au point Blue Dove, une solution intelligente destinée au système de télésurveillance et de vente.
Étudiant sur le campus de l'UM6P, Mohamed Amin Edji voulait régler la gestion des longues files d'attente devant le restaurant universitaire. Il conçoit Zark, un moteur d'intelligence artificielle alimentant les caméras de télésurveillance et qui permet d'améliorer la sécurité et d'accroître les ventes. Le marketing ciblé en magasin, mais également de gérer les foules. À ses patients en Afrique, Blue Dove propose de connecter les caméras de surveillance au logiciel Zark qui, en temps réel, traite les images. Mohamed Amin Edji travaille sur le terrain juridique pour partir à la conquête de l'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. À l'horizon 2030, la start-up Blue Dove espère atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. L'ingénieur a remporté plusieurs distinctions, notamment le trophée de l'innovation lors du forum sur l'intelligence artificielle et celui du Smart Port Challenge, deux événements qui se sont tenus en Afrique. Il a par ailleurs été soutenu par des programmes prestigieux tels que le 212 Founders organisé par le Royaume du Maroc et le Plug and Play.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Merci Denise et bonne journée.
Denise Epoté avec Simon Bourtembourg. Le livre international de la semaine sur RFI avec le dernier ouvrage du journaliste Marc Semo. Il tente d'y décrypter l'actualité internationale en s'appuyant sur une centaine de questions. Et Frédéric Lebel lui a précisément demandé de décoder la nouvelle place que prennent les mers et les océans dans la géopolitique mondiale.
Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Vous avez longtemps travaillé pour Libération et Le Monde. Vous êtes éditorialiste pour le magazine Challenge. Et vous publiez aux éditions Talendier la géopolitique, comprendre le monde de demain en 100 questions. Vous employez un néologisme très intéressant dans votre livre, celui de maritimisation du monde. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que... Et le commerce maritime, aujourd'hui, est toujours plus important. Plus de 90% du commerce mondial se fait par voie de mer. Et le contrôle des mers, c'est pas le contrôle des océans, parce que par définition, il n'y a pas de frontières dans les océans une fois sorti des eaux territoriales ou des zones économiques exclusives. En revanche, le contrôle des mers, c'est le contrôle des détroits, c'est le contrôle d'un certain nombre de côtes, c'est le contrôle d'un certain nombre de régions qui sont autant de points d'appui qui permettent aux grandes flottes de contrôler les mers. Outre le néologisme de maritimisation, il y a un autre néologisme qui est celui de navalisme.
Tout à fait, qui nous amène à parler des moyens militaires déployés sur mer. Et là, on peut dire que les États-Unis sont indépassables.
Les États-Unis sont pour le moment indépassables. Alors même si numériquement, ils sont talonnés par les Chinois, mais c'est classique. Si vous voulez, dans le monde des relations nationales, l'hyperpuissance, la première puissance, a toujours été celle qui dominait les mers. Alors ça avait été le cas du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne au 19e siècle et au début du 20e. C'est ensuite le cas des Américains. Et aujourd'hui, ils sont défiés par la Chine. Alors ensuite, il y a une autre dimension qui est celle des puissances mixtes, qui sont à la fois maritimes et terrestres, comme pouvait l'être la France, bon, qui n'a jamais eu trop de chance avec la mer. Et d'ailleurs, on peut regretter en France, alors que la France a le deuxième domaine maritime au monde, notamment dans l'Indo-Pacifique, que jamais la politique française n'a joué le primat de la mer.
Et la France aimerait, vous le disiez, avoir un rôle dans cette région, mais ses moyens sont dérisoires.
Voilà, la France a un rôle. D'abord, de tous les pays de l'Union européenne, c'est la seule qui plante son drapeau dans des territoires dans l'Indo-Pacifique. Mais nos moyens sont dérisoires, c'est quelques frégates. Et dans un rapport de l'IFRI, ils estimaient que c'était comme si on avait une voiture de patrouille pour tout le territoire français.
On parle de plus en plus de l'océan Arctique, et pas seulement en raison des déclarations provocatrices de Donald Trump sur l'annexion du Groenland. Quelle place cet océan de l'extrême nord pourrait-il tenir dans la future géopolitique du monde ?
Une place clé, parce que d'abord, c'est le plus petit des océans, 14 millions de kilomètres carrés, mais c'est quand même pas rien. Mais surtout avec le réchauffement climatique, le fait que déjà l'été, la mer sera ouverte, et ça peut même l'être malheureusement si le réchauffement continue à s'accentuer même plus longtemps dans l'année, il est possible de passer par là, pour passer de l'Atlantique au Pacifique ou réciproquement, pour aller vers l'Asie, ce qui raccourcit d'au moins un tiers le voyage. C'est non seulement un enjeu stratégique toujours plus important, il l'était déjà, il ne faut pas oublier que pendant la guerre, les États-Unis avaient installé à Thule une énorme base pour militaire. Aujourd'hui, il faut voir que dans l'Arctique, il y a plus de sous-marins russes et chinois que d'ours polaires.
On parle de l'importance des mers dans les rapports de force mondiaux. Elles sont à double titre stratégique, en raison aussi des câbles de communication qui sont au fond des océans. À l'heure de l'IA, c'est une matérialité qu'on ne peut pas oublier.
C'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire, on a l'impression Internet, c'est le satellite, machin, le cloud, immatériel et tout. C'est pas vrai. Les centres de data, etc. Et la communication, ça passe par des trucs qui sont extrêmement physiques, qui sont des millions de kilomètres de câbles sous-marins. Ils sont 500 grands câbles, à peu près 550 grands câbles sous-marins. Alors, ils sont pas très épais, c'est à peine un poignet, mais c'est par là que transitent à peu près toutes les données du numérique, et presque tous passent par les États-Unis, y compris les câbles qui relient l'Europe à l'Asie, ils passent par les États-Unis. Alors, ce qui permet aux États-Unis d'ailleurs de tout écouter, et on s'aperçoit aussi de leur enjeu stratégique. On l'a vu avec la guerre dans les relations avec la Russie, en Baltique, où régulièrement des chalutiers ou des navires fantômes russes coupent ces câbles, on les répare.
Guerre hybride, conflit de haute intensité, maritimisation du monde, autant de concepts que vous avez décryptés dans votre livre, Marc Semo, La géopolitique, comprendre le monde de demain, qui paraît aux éditions Talendier. Merci à vous.
Entretien entre Marc Semo et Frédéric Lebel à retrouver sur RFI.fr. Nous sommes au musée du Quai Branly à Paris pour refermer cette demi-heure. Au fil de l'or, c'est le nom de la nouvelle exposition qui y est proposée. Une traversée du monde méditerranéen et asiatique à travers le vêtement tissé d'or au fil des siècles. Muriel Mahalouf a pu visiter cette exposition. Reportage.
L'exposition s'ouvre par une histoire digne d'un conte, et pourtant c'est la réalité. L'or est arrivé des étoiles. Il y a 4 milliards d'années, des météorites ont bombardé la Terre, essaimant pépites et paillettes dans les sols et les rivières. Le métal brillant orne les vêtements dès le 5e millénaire. Mais il faut attendre un peu avant de pouvoir le broder. Hanna El-Banna Chidiak, commissaire de l'exposition.
Il faut attendre quand même le 3e millénaire. Probablement, c'était un travail commun entre orfèvres et tisserands pour réussir à marteler l'or, en faire des lames fines et créer les premiers galons qui vont orner les habits. Et ces premiers galons ont été découverts par des archéologues italiens en Syrie, à Ebla, qui devait agrémenter les costumes d'un roi.
Et depuis, l'homme ne cessera d'affiner sa technique pour rehausser les parures. L'exposition nous immerge dans des vêtements somptueux du Maghreb au Japon. Plus de 300 pièces et des fragments de tissus archéologiques.
L'exposition est née autour d'un noyau de costumes qui font partie des collections du musée du Quai Branly, des costumes qui proviennent d'une vaste région allant du soleil couchant au soleil levant, du Maroc et jusqu'au Japon, et essentiellement des costumes féminins. Ils sont tous tissés, brochés d'or, rehaussés de sequins.
Et parmi ces vêtements, le caftan occupe une place de choix.
Déjà, le mot caftan vient du persan haftan, et donc il plonge ses origines en Asie, et plus exactement en Iran, où il s'inspire un peu de ce manteau perse, cette candice. Et le caftan va atteindre son apogée à Bagdad, sous les Abbassides. On va le retrouver avec cette coupe, ces manches larges en Andalousie. Il va pénétrer en Maghreb très probablement vers le XVIe siècle, mais il va atteindre son apogée sous l'Empire ottoman.
Si le caftan impose, de par son tissu, souvent en velours et les fils d'or qui le sertissent. Plus loin, dans la section consacrée aux pays d'Orient, le tissu devient plus aérien. L'influence indienne est là. Les tissus de luxe, alliant soie et or, sont destinés aux vêtements de femmes riches ou de la noblesse. Et tout le long de l'exposition, les créations contemporaines
scène somptueuse de Copay, l'artiste chinoise qui a habillé Rihanna, viennent ponctuer le parcours. Une exposition chatoyante, on en sort des pépites plein les yeux.
Reportage de Muriel Mahalouf du service culture de Radio France Internationale. Il est 4h59 ici à Paris. Merci à Thierry Le Saint et à Vincent Dublange à la réalisation et à la rédaction en chef de cette demi-heure. Dans quelques secondes, sur la radio du Monde, un nouveau journal avec Martin Guez. Nous sommes à Ramallah dès le début de cette édition.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Il aurait eu 100 ans cette année. Malcolm X a été assassiné le 21 février 1965. Si sa vie est connue, sa relation à l'Afrique, les mois, tournées, discours du Caire, rencontres avec les leaders du continent, héritiers potentiels, je vous raconte ses liens, faits de conviction et d'opportunisme.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU, sur RFI.